ont quelque chose de toi, quelque chose de plus. Parce que tu as les paroles de la vie, Seigneur. Et nous les voulons ce matin, pour chacun de nous. Amen. Il pleut, vous l'avez remarqué ? Alors vous savez que... ça va aller, hein. Ça va aller. Merci. Il pleut, et quelle belle image, cette pluie, que l'image du Saint-Esprit. Hein ? C'est cette eau qui descend. Et alors ce matin, j'avais à cœur, on va poursuivre évidemment sur, vous savez, l'Épître aux Corinthiens, et j'avais à cœur qu'on parle des dons du Saint-Esprit. Waouh ! Alors, c'est vraiment avec tremblement qu'on va s'emparer de ce thème, en partie, parce que c'est un thème tellement vaste, et il y a tellement eu de choses déjà dites sur le sujet, que c'est vraiment une grande humilité, et en même temps avec l'assurance que Dieu va nous parler ce matin. Amen. Alors, les dons spirituels, quand je vous regarde, je me dis, c'est intéressant parce qu'on a chacun une histoire sur le sujet. On n'a pas la même histoire, on a probablement déjà des prérequis. On a des théologies déjà qui nous ont été transmises, on a des pratiques qui nous ont été transmises. Et ce que je vous demande ce matin, c'est qu'on essaie ensemble d'évacuer un peu tout ça, d'essayer de regarder ce sujet un peu comme tout à nouveau, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, et de voir comment Paul va aborder ce sujet vers les Corinthiens. Et en tout cas, moi j'ai été béni de redécouvrir... Comme tout à nouveau sujet. Alors on va commencer. Décidément, la technique nous lâche. Hein. Bon ben Kevin, on se regarde. Voilà. Alors principalement sur le chapitre 12, puisque Paul va essentiellement donner des indications. Alors on parle pas des dons spirituels que dans le chapitre 12. Mais là, on a quand même un concentré sur le sujet. Il est intéressant de voir dans un premier temps que dans l'épître, dans la première épître aux Corinthiens, il y a une espèce d'ordre, une espèce de hiérarchie dans ce que Paul va présenter quand il va parler de l'assemblée, quand il va parler de l'Église. Il commence par parler du repas, de la scène. Donc on voit que Christ est au centre. Hein, s'il y a des étapes à franchir, Christ est au centre. Et seulement après, il aborde la problématique de l'édification de l'Église et donc des dons spirituels qui servent, on le verra, à l'édification de l'Église. Ok ? Donc on a bien une progressivité dans ce que Paul nous conseille dans l'organisation de notre assemblée. Et je vous propose trois versets, déjà trois versets qui plantent le décor. Paul va commencer par dire, j'en viens au problème, alors on est en summer là, hein. J'en viens au problème des manifestations de l'esprit. J'aimerais, frère, que vous soyez bien au clair là-dessus. Second dira que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païen, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. Et un élément que j'ai mis en complément qui me paraît intéressant, mon enseignement, on le connaît, 1 Corinthiens 2, et ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'esprit. Alors Paul commence par identifier un problème. Probablement chez les Corinthiens, et on l'a déjà dit, il y avait peut-être un problème d'ordre. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait une découverte de la liberté, et on voit qu'au niveau éthique, il y avait besoin de remettre un peu de l'ordre. Et je pense qu'au niveau des manifestations de l'esprit, il y avait besoin aussi de rappeler un peu des points d'organisation et des points d'ordre. Donc ce problème... Et ça passe par une explication. Que veut dire le don, un don du Saint-Esprit ? C'est quoi une manifestation du Saint-Esprit ? Deuxième point, Paul nous parle d'idole muette. Intéressant. Enfin, je ne sais pas si vous trouvez ça intéressant, mais moi j'ai trouvé ça intéressant. Vous savez, ça m'a rappelé l'histoire d'Élie, vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, qui va défier 450 prophètes de Baal. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire ? Ouais. Et à un moment donné... Élie, même, il se moque un peu d'eux. Hein. À un moment donné, il les voit se préparer, ils invoquent, etc. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils font. Et il ne se passe rien. Et même à midi, hein, donc il est midi, Élie se moque à d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort ou qu'il va se réveiller. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie avança et dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. » Alors en quoi ça m'a intéressé? Et pourquoi j'ai mis ce verset juste après? Parce que ne nous voilons pas la face. En étant chrétien, le Saint-Esprit nous équipe pour qu'il y ait une démonstration de puissance. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et si Élie, dans l'Ancien Testament, est tellement sûr de lui qu'il va défier les prophètes de Baal et qu'il va se moquer d'eux, c'est qu'il est certain que son autel va s'embraser. Amen. Parce qu'Élie va obéir à l'ordre de l'Éternel. Et il est tellement sûr de lui qu'il se permet d'aller se moquer. Alors, ces idoles muettes, moi ça m'a fait penser à ça. En tout cas, je pense qu'on a une indication déjà. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit nous équipe. Et Paul va baser sa prédication aussi sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Alors évidemment, je ne parle pas que de miraculeux là. Je parle de la manifestation de l'Esprit qui accompagne ceux qui auront cru. Alors, quand on parle des dons spirituels, j'ai voulu prendre un tout petit peu plus de recul pour comprendre, puisque Paul parle des dons spirituels, pour comprendre d'où on venait. Vous savez qu'il y a une histoire à toute chose, on parle des choses de l'ombre, des choses à venir. Quelle est cette ombre? D'où partons-nous? Pourquoi le Saint-Esprit se manifeste de cette manière maintenant? Et dans quel contexte tout ça s'intègre? Donc c'est la première partie de ce message, l'œuvre du Saint-Esprit, une évolution annoncée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Gérard a parlé de Moïse, comme peut-être le plus grand de l'Ancien Testament, et il n'a pas tort. Bien qu'on ait eu Moïse, bien qu'on ait eu Élie, bien qu'on ait eu Élisée, vous savez, des prophètes puissants qui ont été l'intermédiaire de manifestations du Saint-Esprit puissantes, il faut quand même reconnaître que dans l'Ancien Testament, les manifestations du Saint-Esprit sont quand même assez rares. Si vous prenez une échelle du temps et que vous regardez toutes les manifestations du Saint-Esprit, en tout cas du spectaculaire, on est plutôt dans des phénomènes assez rares. En tout cas, ça ne touchait pas tous les croyants. C'était réservé à des prophètes pour des missions spécifiques. Donc, on peut dire que l'activité du Saint-Esprit est moins puissante dans la vie de la plupart des croyants, en tout cas dans l'Ancien Testament. Les prophéties, à l'époque, ont valeur de parole de Dieu. On verra que dans le Nouveau Testament, c'est un tout petit peu différent. Dieu parle par des prophètes. Et c'est important de comprendre que les prophètes de l'Ancien Testament, ce qu'ils disaient de la part de Dieu, étaient considérés comme parole de Dieu. Au point qu'ils écrivaient. Ça passait de l'oral à l'écrit. Et c'était valeur, on voit tous les prophètes, tous les livres notamment, ça avait valeur de parole de Dieu. Et on verra qu'il y a une différence fondamentale entre la prophétie de l'Ancien Testament et le prophète du Nouveau. Et tout ça, dans l'Ancien Testament, on parlait de l'ombre des choses à venir. Prophète Joël qui annonce ce que nous allons vivre, ce qui s'est vécu plus tard. Joël, pour info, c'est un petit prophète qu'on constitue à moins 400, donc 400 avant Jésus-Christ. Donc il prophétise 400 ans avant la venue de Jésus et il dit « Après cela, moi je répandrai mon esprit sur tout le monde. » Summer, je répandrai de mon esprit sur toute chair, dans la version traditionnelle. « Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards par des songes, vos jeunes par des visions recevront des révélations. » On peut dire que là, on a un point de départ important. L'Ancien Testament parle, par Joël, de ce qui va se passer plus tard. On le sait, je reprends ça, mais on le sait. Mais c'est important de voir que ce que nous vivons aujourd'hui est fondé sur des éléments prophétiques qui ont été donnés 400 ans avant que Jésus... Et on voit que tous ces accomplissements prophétiques, ça en est un, pas le seul évidemment. Enfin, ça nous démontre encore une fois s'il était besoin de la puissance du plan de Dieu. Alors cette prophétie, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle est reprise par Pierre en acte 2, hein, au moment de la Pentecôte. Il dit simplement, vers les Juifs de l'époque, il dit simplement, ne vous inquiétez pas, c'était prévu. Puisque vous savez que Jésus est venu accomplir des prophéties, est venu accomplir. Et donc, il y avait toujours un lien entre le Nouveau Testament et l'Ancien, et le lien de l'œuvre du Saint-Esprit, il est là. Et il est clair, Joël ne pouvait pas savoir, si ce n'est par révélation, ce qui allait se passer. Alors, l'œuvre du Saint-Esprit, on a vu un fondement prophétique et différentes étapes de déploiement du Saint-Esprit. Jésus, en Matthieu 12, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. On peut dire que Jésus-Christ manifeste la plénitude et la puissance du Saint-Esprit dans un but, s'emparer du royaume de Satan. On est dans un combat, mes amis, on le sait. Il y a un combat de royaume. Et Jésus, première étape, concentre la plénitude et la puissance du Saint-Esprit. Et on va voir au travers des miracles, on va voir au travers des paroles qu'il va donner, évidemment, que la plénitude est là. Première indication pour nous, on est dans un combat, royaume contre royaume. Et Jésus, sa mission est claire. C'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Deuxième étape, Jésus représente cette plénitude. Il y a un déploiement sur les disciples. Matthieu 10, partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux, même principe, le royaume, est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le Saint-Esprit, plénitude sur Jésus, n'a pas encore été déployé sur les croyants. Ça commence par une mission précise sur les disciples, avec cette mission d'aller guérir, etc. Troisième étape, et peut-être la plus belle pour nous, tous les croyants. Amen. Alors, vous savez qu'on est entre l'Ascension et Pentecôte, là, il me semble. Hein ? Donc là, on va fêter quelque chose de fantastique. On le dit, on le sait, mais j'aimerais qu'on s'en rende compte. On vit une époque formidable. Pas parce qu'on a Macron président. On vit une époque formidable parce que le Saint-Esprit a été déployé sur tous les croyants. Ce qui était réservé à des prophètes, ce qui était réservé aux disciples, a été déployé sur tous les croyants. Et évidemment, c'est la Pentecôte. Avant de monter au ciel, Jésus annonce, juste avant la Pentecôte, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, vous serez mes témoins. On connaît bien ce passage. Et après ces mots, Jésus monte au ciel. Alors on peut dire que Pentecôte vient couronner le déploiement du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit est totalement déployé sur nous tous, sur les croyants. Et est-ce que ça vous rend joyeux ce matin? Parce que le temps pluvieux, tout ça, on sent que c'est dur, hein, c'est dur, hein. Hein. Est-ce que ça vous rend joyeux? Ouais. Vous rendez compte cette vocation, ce privilège qu'on a de recevoir le Saint-Esprit et tous ces dons. Et évidemment, on va en parler puisque c'est le sujet. C'est fantastique de le réaliser comme tout à nouveau. Alors, pourquoi vocation? Pourquoi les dons spirituels? Allez, je vous pose la question. Pourquoi les dons spirituels? Bon, c'est trop tard, mais... Bon, alors je vous propose cette réponse. Les dons spirituels sont accordés à l'Église pour la rendre apte à accomplir sa mission jusqu'au retour de Christ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je vais vous faire bouger un peu. On est d'accord avec ça? Jésus part, il ne nous laisse pas seuls, le Saint-Esprit nous est accordé. Et la mission de l'Église, jusqu'au retour de Christ, est accompagnée par le ministère du Saint-Esprit. Amen. On n'est pas seuls, les amis. Jésus nous a quittés, mais il ne nous a pas laissés orphelins. Et alors, si on reprend rapidement peut-être la mission de l'Église, hein, peut-être trois points. Servir Dieu, rendre un culte, ce que nous faisons ce matin. Servir les croyants. Et servir le monde, l'évangélisation évidemment. Alors, il n'y a pas un curseur plus qu'un autre, hein, ce n'est pas un ordre 1, 2, 3. J'ai mis 1, 2, 3, ouais, j'ai mis 1, 2, 3. Donc on peut mettre 3, 2, 1, enfin, il n'y a pas... L'idée, c'est que l'un... Vous voyez qu'on garde un équilibre entre ces trois missions, parce que Dieu nous a équipés pour vivre ces trois missions. Servir les croyants, on pourrait dire que c'est participer à la nourriture des croyants pour faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ. Colossiens 1, 28. Voilà l'objectif de nos rencontres. Et servir le monde, on peut parler d'évangélisation évidemment, mais on peut parler aussi de social, de miséricorde, ce qu'on appelle la miséricorde, parce que c'est aussi important que le reste, un équilibre à tenir. Alors quand Paul va parler de dons spirituels, il y a plusieurs aspects là. Qui a fait grec deuxième langue là ? Ah, Michel, donc tu pardonneras ma prononciation ? Ok. Deux termes sont utilisés qu'on connaît. Charisma, quand on dit que Gérard de Vogel est charismatique, c'est vrai. Eh bien, ça vient du grec charisma. Vous savez ce que veut dire charisma ? Timothée. Charisma, est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Non ? Personne se risque ? Cadeau ? Ouais, un don, bien. Allez, un petit complément. Ouais, qui a dit ça ? Allez, debout s'il vous plaît, on applaudit. Si, debout. Bravo, don de grâce, oui, don de grâce. C'est important de mettre les deux, don de grâce. Oh, on m'a donné quelque chose et c'est par grâce. C'est beau ça, non ? Charisma, utilisé... Surtout quand Paul va dresser une liste des aptitudes, des dons qu'on va dire naturels. Et un autre mot qui est utilisé, alors là, attention, pneumatikos. Alors ça intéresse quelqu'un pour la traduction là ? Souffle. Oh là là, alors là, s'il vous plaît. Non, on se lève. Le souffle, les manifestations spirituelles. Il y a eu des traductions, hein, manifestations spirituelles. Paul va utiliser ces deux termes. Et vous savez, alors petit point d'histoire un peu de théologique, vous savez, quand le mouvement de Pentecôte a mis un peu en exergue ce sujet, a mis en avant un peu ce sujet, il y a eu une forme de séparation. Vous savez, on a séparé le charisma, les dons, les aptitudes, les dons naturels, et ce pneumatikos, très très spirituel, un peu plus miraculeux, et on a dressé deux listes en gros. Et on a dit, là, c'est vraiment les dons spirituels, et le reste, bon, c'est des dons, mais... Et je crois, première chose que j'ai redécouverte, il me semble que Paul ne fait pas ces distinctions. Paul donne autant d'importance au charisma et au pneumatikos. Et je vous propose cette définition d'un don spirituel que j'ai trouvé, c'est... Enfin, je trouve la meilleure définition, c'est Grundem, hein, donc je ne l'ai pas inventé. On appelle don spirituel toute aptitude vivifiée par le Saint-Esprit et mise au service de l'Église. J'ai trouvé cette définition très belle. Toute aptitude vivifiée par le Saint-Esprit et mise au service de l'Église. Alors du coup, c'est large, c'est hyper large. Quand Gabriel nous a menés dans la louange ce matin... Quand il a travaillé son piano, c'est une aptitude vivifiée par le Saint-Esprit. C'est évident, il y a eu une onction ce matin et mise au service de l'Église. Voilà un don spirituel. Quand il y a une parole de guérison de la part de Loïc ce matin, là on est plutôt sur du don miraculeux, il y a une prophétie où il y a une guérison, eh bien Loïc l'a mis au service de l'Église. Amen. Est-ce qu'on distingue les deux? Est-ce que l'un est plus important que l'autre? Je crois pas. Je crois pas. Je discutais avec Christophe hier et il me donnait un super exemple. Vous savez, quand Paul dresse une liste, excusez-moi, il y a plusieurs listes qui sont dressées. Il y a même Pierre qui en parle. On retrouve ça dans Romains, on retrouve ça dans 1 Corinthiens, etc. Si on fait le total de tous les dons entre les charismas et les pneumatikos qui sont identifiés, on arrive à 50, quoi. Et je pense que ça n'est même pas exhaustif. Quand Paul en parle, il parle d'une aptitude vivifiée par le Saint-Esprit mise au service de l'Église. Et Christophe hier me parlait d'Esther. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, Esther, quelle a été l'aptitude d'Esther? Il y a Norbert qui rigole parce qu'il a la réponse. Fred aussi. Quelle a été l'aptitude d'Esther? Sa beauté? Ben ouais. Moi, je pourrais porter ma beauté, mais bon, ça marche pas. Parce que je suis pas beau. Ah! Il faut aller loin quand même pour vous faire réagir. Ok. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'Esther avait une aptitude et sans, alors attendez, sans masochisme, sans machisme, attention, la femme n'est pas que belle, elle est intelligente aussi. Hein? Non, ne vous inquiétez pas. Bon. Mais à un moment donné, Esther était belle, très belle, paraît-il. Je ne l'ai pas vue. Hein. Elle était très belle. Aptitude vivifiée par le Saint-Esprit, elle s'est mise au service. Ok, c'était l'Ancien Testament, donc on ne parle pas vraiment d'Église, mais le principe reste le même. On peut parler d'un don spirituel. Vous voyez que moi j'avais une vision assez étriquée, et ben Paul, il est beaucoup plus large, quoi. Donc, charisma, pneumatikos, c'est bon on... Ok. Alors, si on zoome un peu sur les dons spirituels, il est important de donner la bonne place aux dons spirituels. Le bon niveau d'autorité d'un don spirituel. Parce que un don spirituel reste une manifestation partielle. On parle même dans 1 Corinthiens 15 d'un avant-goût de l'âge à venir. C'est beau de comprendre que quand on vit une guérison et on continue à prier pour que les malades soient guéris, on ne lâche pas l'affaire parce que le Seigneur continue de guérir, évidemment. Il y a deux manières de l'envisager. Soit on considère que c'est de la magie, une magie de plus, soit on considère que c'est un don de grâce, un charisma, un don miraculeux qui préfigure ce que nous allons vivre. Qu'est-ce qu'on va vivre? On va vivre la résurrection des corps. Ouais ou pas? On va avoir des corps tout neufs, tout beaux, musclés, tout. Eh bien, la guérison du corps est une manifestation, est une préfiguration de la perfection du corps que nous aurons à la résurrection. Oui ou non? Bon. Donc, la guérison que nous allons vivre, pourquoi elle n'est pas systématique? Parce que les dons sont de manifestation partielle. Il n'y a pas de systématisme. C'est de la grâce que Dieu nous donne à certains moments. Et c'est pour ça qu'il faut exercer notre foi dans ce don de grâce, mais ne pas transformer ce don de grâce en systématique. Parce que là, on donne une autorité au don qui, à mon sens, n'a pas lieu d'être. Quand Paul dresse une liste, je l'ai déjà dit ça, on a une liste qui cumule dons naturels, dons qu'on pourrait appeler miraculeux, dans lesquels, après j'ai refait une liste, on le regardera, prophétie, guérison, discernement des esprits, mais Paul ne fait pas une hiérarchie là-dedans. Enfin, il fait une forme de hiérarchie avec les prophètes, les apôtres, etc. Mais il ne donne pas plus d'importance à l'un ou d'un autre. La définition proposée, c'est déjà fait, on peut passer. On a vu cette définition, pareil, je l'ai remise, j'ai un peu insisté, parce que ça me semblait important. Quelques principes. La diversité des dons doit manifester l'unité du corps de Christ. Alors là, j'ai beaucoup aimé, c'est là qu'on voit que le Saint-Esprit agit, vous voyez. Gabriel, il a parlé de l'amour. Il a été touché, il a été interpellé par la thématique de l'amour. Je crois, et ça pareil, on en parlait Christophe, je crois que le fait que le chapitre 13 soit placé entre le 12 et le 14, où il est question des dons spirituels, ce n'est pas un hasard. Si à un moment donné, la centralité, c'est l'amour, ce n'est pas un hasard. Tout don, tout exercice de don doit participer à l'unité du corps de Christ et doit être là pour l'édification du corps, pour bénir mon frère, mon prochain. Vous voyez, le sens du don spirituel, c'est pas de se faire plaisir, le parler en langue, édification personnelle, ok, mais la pratique de nos dons spirituels ensemble, c'est pas pour m'édifier forcément moi-même, c'est plutôt pour être en bénédiction à l'autre, en bénédiction à l'Église. Une caractéristique, un don, il y a une forme de permanence. Un don est permanent. Un coup, je ne vais pas être prophète, un coup, je ne vais pas être enseignant, un coup, je ne vais pas être... Vous voyez ce que je veux dire ? Dieu nous a donné, par grâce, des dons. Et je pense qu'il y a derrière l'idée de le travailler, son don. Il y a un peu l'idée de s'exercer, d'exercer son don, quel qu'il soit. Et on reviendra là-dessus, sur la notion d'excellence. Dans 1 Corinthiens 12, hein, je mettais « L'œil ne devient pas une main », Paul le rappelle. Un œil, a priori, il reste œil à peu près toute la vie, quoi. Ouais ? Si vous avez d'autres exemples, je prends, vraiment. Mais l'œil, il reste œil, quoi. Et Paul va faire la comparaison avec le corps, qui est une belle comparaison. Parce qu'à un moment donné, il y a cette espèce de complémentarité et il y a une idée de permanence. Les dons peuvent varier en puissance aussi. Dans Romains 12, Paul va dire donc aux Romains, exercez le don de prophétie en proportion de votre foi, de notre foi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est appelé à travailler et on est appelé à vivre le don, peut-être de manière différente, dans notre chemin spirituel. Alors après, les dons miraculeux, non miraculeux, on l'a vu ensemble. Alors là, s'il y a un slogan que j'aimerais qu'on retienne ce matin, tu peux avancer, Kevin ? Tous utiles, personne indispensable. On peut le répéter ensemble ? Tous utiles, personne indispensable. Alors, à la limite, dans ce qu'on vient de dire, j'aimerais bien qu'on zoome sur tous utiles, parce que c'est quand même ça un peu l'idée. Pas de super chrétiens, nous avons besoin les uns des autres. L'idée qu'une personne parmi nous pourrait concentrer tous les dons, c'est pas du tout la pensée de la Bible. C'est pas du tout la pensée de l'apôtre Paul. Les dons sont répartis pour qu'on ait besoin les uns des autres. Il n'y a pas un super chrétien qui arrive au prophète avec le don de guérison, qui fait la louange en même temps, parce qu'une main, l'autre main, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Non, non. Il y a vraiment l'idée que, et Pierre va le dire, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors, il n'y a pas de super chrétien et il n'y a pas de sous-chrétien. Vous savez, la personne qui va dire « mais j'ai aucun don, quoi ». Non, pas d'accord. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. La pierre, il ne prend pas l'hypothèse qu'il y ait la possibilité qu'on ait reçu aucun don. Il dit « mettez-vous au service ». D'accord ? Alors, tu vas dire à ton voisin « mets au service le don que tu as reçu de la part de l'Éternel ». On dit ça à son voisin ? C'est important, parce que je veux que vous en soyez convaincus ce matin. Fred, mets au service le don que l'Éternel. Alors, qui est convaincu d'avoir reçu un don ? D'avoir un don, là, à mettre au service ? Qui est convaincu ce matin ? Qui est convaincu ? Qui est d'accord pour dire que Dieu lui a donné quelque chose qu'il peut mettre au service à Joël ? Je suis désolé, mais je n'ai pas toutes les mains. on déclare de manière prophétique que Dieu ne nous a pas oubliés là. C'est important. On déclare de manière prophétique que Dieu nous a confié quelque chose et qu'on est prêt à le mettre au service de l'Église. J'ai pas toutes les mains, je suis désolé. Ah, mais vous n'allez pas m'avoir, hein? Parce que si quelqu'un n'en est toujours pas convaincu, on va prier pour lui. Vous voulez que venir devant pour qu'on prie pour vous? Non, c'est important, c'est important, c'est vraiment important. Que le Seigneur vraiment nous... Vous savez, on est dans une société de performance où les gens sont mis de côté comme ça, où certains peuvent dire qu'ils ne sont rien parce qu'ils n'ont pas monté de boîte, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? C'est diabolique, cette idée diabolique. Le Seigneur ne nous a pas oubliés. Il nous a confié un don. Libre à nous de le mettre au service. Mais il y a un défi pour chacun de nous. Et donc, 1 Corinthiens 12, 29, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes? Ce que je disais, il n'y a pas de super chrétien. On n'a pas tous les dons. Et c'est la sagesse divine. Alors, il y a un petit tableau rapide. J'ai essayé de dresser... Vous savez, en deux catégories, les fameux dons miraculeux, les dons non miraculeux, les charismas et les pneumatikos. Et si on peut passer à la slide d'après. Est-ce que vous reconnaissez la personne à droite? Hein? Mère Teresa? Hein? Bon, est-ce que vous pensez que Mère Teresa a un don moins important qu'un télévangéliste qui va même produire une guérison par son intermédiaire que le Seigneur va utiliser pour une guérison. Bon, est-ce que Mère Teresa, on est dans un don miraculeux? Miséricorde. Donc on est dans un charisma, ok? Vivifié par le Saint-Esprit, je le crois vraiment. Et de la même manière qu'on ne va pas dire que Mère Teresa est moins, a un don moins important, et on ne va pas faire l'inverse, évidemment. Mais Dieu dispose de ses dons, les distribue comme il le veut. Et vraiment, Paul, j'insiste là-dessus, en tout cas, c'est ce qui me semble avoir compris, ne fait pas de distinction entre ces deux, entre ces dons. Alors, partie 3, notre attitude par rapport à ça, notre positionnement, comment intégrer ça dans notre vie. Corinthiens 14, vous de même, puisque vous aspirez au don spirituel, est-ce que vous aspirez au don spirituel? Ouais? Ouais? Cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. On revient au sens du don spirituel, l'édification. Vous savez, j'ai vu, alors je critique pas, mais j'ai vu des fois des manifestations, beaucoup de manifestations, dont on peut se demander si elles édifient l'Église. Alors, elles édifient sûrement la personne, mais c'est une bonne question à se poser, je trouve. C'est qu'à un moment donné, le sens que Paul donne, c'est vraiment l'édification de l'Église. Je pense qu'on est invité à découvrir, à rechercher son don. Nous en avons tous un, on l'a dit tout à l'heure. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne l'as pas découvert, ton don. Il n'est pas évident pour toi. Eh bien, recherche-le. Prie. Fais-toi accompagner peut-être des responsables pour qu'on puisse t'aider. Et tu as quelque chose à apporter. Quelque chose de magnifique. Travailler son don. Qu'un don soit d'ordre naturel ou miraculeux, les chrétiens doivent être les meilleurs. Les chrétiens doivent être les meilleurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais? Non, 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 mais attendez, il y a vraiment débat là-dessus. Hein. Moi, je lis. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Dans chaque domaine, Paul nous invite à faire la chose de manière excellente. C'est pas dans une idée de performance. C'est dans une idée de faire tout pour la gloire de Dieu. Je joue de la guitare, je vais faire le maximum parce que c'est le don que le Seigneur m'a confié. Je veux le mettre au service de l'Église, donc je travaille ma guitare. Je veux exercer l'hospitalité, eh ben, je vais travailler ce don. Peut-être je vais ranger un peu mieux ma maison, peut-être, je ne sais pas. Mais dans chaque domaine, demandons au Seigneur cette motivation, pas de la performance et pas de, de paraître beau, simplement d'être excellent dans ce que Dieu va nous donner. Alors Paul, à un moment donné, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. » Et on arrive à 1 Corinthiens 13. Et 1 Corinthiens 14, « Recherchez avant tout l'amour. » Ok ? Aspirer en outre aux manifestations de l'esprit, pneumatikos, et surtout aux dons de prophétie. Alors, c'est peut-être intéressant de faire un petit stop là-dessus. Pourquoi le don de prophétie ? Pourquoi Paul zoome un petit peu sur le don de prophétie ? Rappelons-nous, L'objectif des dons spirituels, c'est vraiment l'édification. Et Paul pense que la prophétie est un outil d'édification important. C'est pour ça que c'est important de bien définir ce qu'est la prophétie au sens Nouveau Testament, pour ne pas se tromper, et pour ne pas faire dire au prophète ce qu'il n'a pas à dire. Je rappelais tout à l'heure que un prophète de l'Ancien Testament avait valeur de parole de Dieu. Vous vous rappelez ce qu'on disait tout à l'heure ? Au point que ce qu'un prophète disait, ça pouvait s'écrire et ça pouvait devenir parole de Dieu. Aujourd'hui, on sait que chaque croyant a accès au trône de l'Éternel. Le voile a été déchiré, on est tous des souverains sacrificateurs, oui ou pas ? Donc on a un accès au Père. Par la prière, par la révélation, par la parole de Dieu, on a accès à la parole de Dieu, d'accord ? Ce qui n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. Le prophète, aujourd'hui, a une autre mission, c'est dire quelque chose qui lui est venu à l'esprit de la part de Dieu. Vous voyez que c'est un peu différent. Parce que entre la parole de Dieu et la personne et les oreilles de ceux qui vont entendre, il peut y avoir le prophète, il peut y avoir des petites erreurs. C'est pour ça qu'on est appelé à éprouver. Ça peut tomber pile, ça peut tomber des fois à côté. C'est pour ça qu'on est appelé à éprouver. Et c'est pour ça qu'un prophète qui dit « Ainsi parle l'Éternel », faisons peut-être juste attention. Je suis désolé, je mets peut-être un pavé dans la mare, là, mais peut-être, comme Loïc a dit ce matin, « Il me semble que le Seigneur, il me semble que... » De la part de Dieu, je voudrais vous communiquer ce que j'ai à cœur. Vous voyez un peu la différence ? Ainsi parle l'Éternel, on ne peut plus rien dire. De la part de Dieu, je voudrais vous dire ce que j'ai reçu. C'est une toute petite nuance qui peut changer la manière dont on va accueillir cette prophétie. Et dans l'ordre que Paul indique dans le fonctionnement de l'Assemblée, dans la manifestation des dons spirituels, je pense que à la fois Paul nous donne des indications et à la fois il nous dit aspirez, aspirez, aspirez. Je ne suis pas en train de vous dire de mettre le Saint-Esprit en boîte là, attention, hein, comprenons-nous bien, vous voyez que l'équilibre est ténu. Hein. Le Saint-Esprit doit pouvoir se manifester totalement librement. Totalement librement. Et ne retenons surtout pas ce que le Saint-Esprit met sur nos cœurs. Parce que c'est une bénédiction que nous pouvons effacer pour quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit parle, et on veut qu'il parle encore plus. Et on veut que chacun d'entre nous manifestions ses dons spirituels de plus en plus. Et l'ordre n'est pas fait pour contraindre, pour diminuer. Au contraire, l'ordre est fait pour comme quand on taille un arbre, c'est fait pour qu'il se développe encore plus qu'avant. Donc on veut vivre les manifestations d'esprit. On veut vivre les dons spirituels. Et ne pas retenir, c'est important. Et j'aimerais que Dominique nous explique pourquoi ne pas retenir a été important pour elle. On l'encourage, Dominique ?
Bonjour. Il m'a dit d'être courte, donc je vais essayer de l'être. Voilà, au début du mois d'avril, mon mari a dû subir 2 angioplasties coronariennes. Donc, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, et en toute simplicité, c'est une intervention au niveau du cœur pour poser des stents. Donc, il souffrait d'insuffisance cardiaque. Et pourquoi deux ? Ben, à vrai dire, c'est en faisant la première que le chirurgien, par prudence, vu son état de santé qui n'était pas très bon, a préféré de faire l'intervention en 2 fois. Donc, cet intervalle-là de la semaine a été, comme vous pouvez le penser, très difficile. Donc, j'étais animée de plusieurs émotions, mais la plus grande, je crois, que c'était l'abattement et la tristesse. Et... j'avais besoin d'être près de lui, de veiller ou de surveiller en même temps. Et voilà, toute la semaine. Mais à un moment donné, j'en avais un peu marre. Et puis j'avais besoin de prendre l'air aussi. Et je me dis, tiens, tu vas t'accorder 1 heure de temps et tu vas aller te changer les idées dans un magasin, faire du shopping, comme on fait beaucoup, nous les femmes. Mais malheureusement, à Beauvoisin, à part le marchand de poireaux, il n'y a pas grand-chose. Donc, je me suis dit, tu vas aller un peu plus loin sur vos verres et il y a un truc de bonnes affaires ou de farfouilles. Donc, j'y vais l'esprit chagrin, vraiment chagrin, en n'ayant pas de but précis sur un achat particulier à faire, mais simplement pour me changer les idées. Donc, et le temps était le même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire minable, affreux, voilà. Tout était gris dans mon cœur comme à l'extérieur. Et donc, je rentre dans le magasin et je déambulais sans... regarder sans voir, je pense que certains savent ce que ça veut dire. Et voilà. Et puis j'allais partir dépitée parce que franchement, voilà, rien n'avait changé dans mes émotions. Voilà, j'étais rentrée et je ressortais la même, quoi. Donc voilà. Et puis à un moment donné, j'étais dans une allée et j'entends un joli chant d'oiseau. Donc interdite, je m'arrête. Et puis j'ai envie, comme une petite fille, de reculer. Et puis de repasser pour réentendre ce chant d'oiseau. Et je le fais au moins 2 ou 3 fois. Et j'ai reçu ce chant d'oiseau vraiment comme voilà, une manifestation du Seigneur qui me disait « Coucou, je suis là, ne sois pas triste, je suis la victoire et tout va bien se passer. » Donc je lève la tête et puis je vois un oiseau, mais vraiment has-been et très moche. En plâtre. Et puis les couleurs étaient ternes, mais vraiment, voilà. Et vous avez compris, c'était un détecteur de présence. Bon, et pas du tout mon style, hein, au niveau de la déco. Mais bon, c'était devenu mon oiseau. Donc, je l'achète. Et je me dis, quand mon mari va voir ça, il va me dire, mais c'est pas possible. Encore une quincaille, là, mais c'est n'importe quoi. Bon, tant pis, c'était... l'oiseau qui était mon cadeau du ciel. Donc, j'arrive à la maison et puis je dis à Patrick, Jean-Patrick, mon mari, tu as vu ce que j'ai acheté ? Il me dit, mais qu'est-ce que c'est ça encore ? Je lui dis, mais écoute bien ce chant mélodieux. Donc, évidemment, il était devant. Donc, l'oiseau se met à chanter. Et puis, j'ai dit, écoute, je l'ai reçu comme un cadeau du ciel. Tout va bien se passer. Et puis, rappelle-toi, il a plusieurs fonctions, il est détecteur de présence. Donc, on a déjà un petit abri à oiseaux devant la maison. Donc, c'est sa place, c'est vraiment sa place. Et puis, pas plus. L'histoire pourrait s'arrêter là, et elle est déjà très belle, je trouve, parce que je suis rentrée le cœur égayé. Et aussi, avec la certitude que tout allait bien se passer. Vous avez envie de connaître la suite, je suppose. Donc, je continue. 2 jours après, je reçois un SMS de Chris, qui est dans notre église là, et donc elle m'envoie « Dominique, je pense beaucoup à vous, je sais que les moments sont difficiles. » Et elle me dit « Voilà, j'ai demandé au Seigneur de me révéler une parole pour toi. » Et elle m'envoie un smiley, devine ce qu'il m'a envoyé, j'ose à peine te le dire. Et vous savez quoi? Il avait envoyé un chant d'oiseau. Voilà.
Merci beaucoup. Et tout ça attesté par les SMS qu'on a tous vus en réunion maison. Hein. Donc, c'est génial. Voilà une manifestation de l'esprit. Alors, je ne sais pas où on la classe, celle-là. Dans prophétie, dans parole de connaissance, j'en sais rien, mais peu importe. Quoi. C'était la parole dont avait besoin Dominique à ce moment-là, qui venait valider le fait que ce chant d'oiseau était le clin d'œil du Seigneur pour elle. Waouh ! C'est pas un miracle, ça ? Hein ? Alors, en conclusion, on va passer directement à la conclusion, parce qu'il est tard. Je voudrais vraiment qu'on considère les dons spirituels pas comme une option, comme indispensable. Rappelons-nous, Dieu nous a donné ses dons spirituels pour tenir jusqu'à son retour. Donc soit on se croit super fort, soit on considère que c'est indispensable pour notre vie, pour l'édification de notre Église et pour la bénédiction de notre prochain. Deuxième élément, n'opposons surtout pas le surnaturel au naturel. Laissons-nous vivifier par le Saint-Esprit. Vous vous rappelez de la définition ? Le principe, c'est que le Saint-Esprit vivifie nos aptitudes et tout ce que nous allons vivre. Et un rappel que nous avons tous un don. Alors mettons-le au service du corps dans l'excellence. Voilà, je voudrais simplement qu'on puisse se lever, qu'on puisse prier. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci parce qu'elle nous rappelle que tu ne nous as pas laissés seuls, tu nous as équipés. Et on veut vivre la plénitude des dons spirituels. On veut vivre la plénitude des manifestations de l'Esprit parce qu'on en a besoin et parce qu'on veut bénir, on veut édifier, on veut proclamer ta parole autour de nous. Et merci Seigneur de nous donner le bon équilibre dans ce vécu, qu'on aille à fond découvrir, quelle que soit notre histoire spirituelle, qu'on redécouvre comme tout à nouveau ces manifestations de l'Esprit. On veut le vivre Seigneur. On veut le vivre, on veut redécouvrir peut-être le parler en langue pour s'édifier nous-mêmes, on veut peut-être redécouvrir les chants en langue, on veut peut-être redécouvrir que tu guéris. Tout ça Seigneur, et aussi on veut redécouvrir que peut-être le don de l'hospitalité et pleinement celui que tu veux qu'on vive, tous les autres, toutes les aptitudes que tu nous as données. Je te demande vraiment, par révélation, de donner une conviction à chacun qu'il est utile pour ton œuvre. Donner une conviction à chacun qu'il n'y a pas un don moins bien qu'un autre. Que tu donnes la même valeur à tous les dons, Seigneur. Amen. Soyez bénis.